un autre regard.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
C'est le dicton, rien sur nous sans nous, en gros. Quoi. Voilà, c'est on veut participer aussi.
Un autre regard sur le handicap psychique. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes bonjour, réunis ce matin bonjour. Pour parler du logement. Une émission Un autre regard sur le handicap psychique qui s'est montée grâce au collectif Santé Mentale 53. Beaucoup d'acteurs du social sur le département avec un financement d'ARS. Merci les ARS. Grâce à vous, on arrive à faire des petites choses comme ça, donc c'est sympathique. Aujourd'hui, nous accueillons bien sûr nos chroniqueurs qui sont parmi nous, qui sont même au micro aujourd'hui. Donc on aura la chance d'écouter Anonyme Rime, on aura Philo Mantalo et la conclue de Quentin bien sûr. Donc ça nous promet une belle émission. L'émission, je vous le dis, sur le logement. Voilà, on s'intéresse à comment on vit chez soi, comment on fait pour se trouver un logement. Donc on va parler un petit peu de la précarité du logement sur Laval, la difficulté pour se loger pour certains, les gens qu'on accompagne qui ont du mal à faire des choix, à trouver un logement. Et on a la chance ce matin d'accueillir Marie-Yannick qui nous vient tout droit de Cran, je crois. Bonjour Marie-Yannick.
Bonjour Arnaud.
Est-ce que vous êtes prête à nous parler un petit peu de votre expérience par rapport au logement? Est-ce que vous avez envie de nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'on se connaît, on s'est déjà croisés.
On se connaît.
Et je trouve que votre histoire est intéressante et c'est pour ça que vous êtes parmi nous aujourd'hui.
Il y a 20 ans que je suis à Cran. J'ai trouvé le logement à Cran.
Ah, c'est la ville, c'est pas le verbe.
Non.
Non, c'est pas le qualificatif, pardon. Donc vous êtes dans la ville de Cran.
Oui.
Depuis 20 ans.
20 ans, le 5 juillet 2024.
Et vous viviez dans une maison?
Avant?
Non, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, dans une maison.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes invité aujourd'hui, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que votre parcours est complètement atypique par rapport au reste des gens?
Parce que j'ai une agréable... un agréable... comment je dirais, je... J'entasse.
Vous entassez?
Plus ou moins.
Vous entassez. On m'a parlé du syndrome...
Un désagréable défaut. Un agréable, je voulais dire quelque chose, mais...
Un désagréable défaut, vous entassez?
Ben oui, ben pour moi c'est un défaut.
Est-ce que ça vous parle, si je vous parle du syndrome de Diogène? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit dans votre histoire?
Je crois que c'est ça.
Bah, c'est possible.
Je crois que c'est ça.
On parle, pour le syndrome de Diogène, en fait, c'est une forme extrême d'accumulation.
Oui, exactement ça.
Comment ça se passe chez vous? À quoi ça ressemble?
À quoi ça ressemble?
Ben oui, parce qu'en fait, nos auditeurs, ils peuvent pas tous venir chez vous.
Ça ressemble à une accumulation d'objets, d'objets, de vêtements,
de papier.
Papier.
De sacs.
Plus du tout de pub.
Ah, vous accumuliez la publicité et maintenant c'est fini.
Non, mais j'accumule encore les livres de la Mayenne et de la région de Cran.
Donc vous avez un petit peu sélectionné votre accumulation.
Oui, il n'y a plus de pub.
Comment ça se fait que vous vous êtes débarrassé de la publicité?
Parce que je ne jetais pas, fur et à mesure, correctement, comme beaucoup de monde.
Vous gardiez tout?
Je gardais tout. Je rangeais des fois bien empilé, mais je gardais, je ne jetais pas.
Donc les poubelles ne passent pas chez vous?
Si.
Et qu'est-ce que vous mettez dans votre poubelle?
Par moment.
Qu'est-ce que vous mettez dedans?
Ben, des emballages, j'ai de la misère à acheter des catalogues de les revues de la région de Cran et de la région du département de la Mayenne et des flyers que j'ai dans les boîtes aux lettres. J'ai de la misère à acheter, oui.
Moi, j'aime bien comment vous présentez vos difficultés parce qu'on sent bien qu'il y a une souffrance derrière ce syndrome. Et pour autant, vous en avez besoin. C'est indispensable pour vous aujourd'hui de conserver toutes ces affaires?
C'est une souffrance. Pour dire que j'en souffre, oui, mais c'est peut-être dur à dire à la radio, mais j'ai été bercée, père et mère, là-dedans toute ma vie, enfin, toute ma vie, toute mon enfance. Et pour moi, j'admire ceux qui, tac, tac, arrivent, prennent et jettent, s'approprient l'objet, et après, jettent l'emballage, jettent, consomment quelque chose, jettent régulièrement.
Vous êtes impressionné par ce fonctionnement-là, qui est naturel pour beaucoup de gens, et pas
oui,
pour vous.
Oui, ce qui est naturel pour beaucoup de gens, et moi, ça me stresse pas, mais ça me... J'admire et je trouve ça un peu... J'ai un gendre qui jette, qui est au contraire de moi. Eh bien, c'est très bien qu'il fasse ça, mais ça me coûte un peu.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous aider à faire le vide chez vous ? Est-ce qu'il y a des... je me rappelle d'une période où vous aviez eu un accident. Vous aviez été à l'hôpital pour votre jambe, je crois.
Tout à fait. Bras gauche fracturé.
Le bras gauche.
Avec mon association, les ateliers d'échange.
Vous étiez tombé au théâtre ou quelque chose comme ça ?
Oui. Une réunion avec un sociologue.
Et du coup, vous étiez cassé le bras
gauche.
Et pendant cette hospitalisation, on vous avait proposé de vous aider à vider toute la maison.
Qui a été de 2 mois et demi l'hospitalisation. Et après, on a continuité. On m'a mis dans une maison de retraite à Château-Gontier, à Isia, à Château-Gontier. Et je ne voulais pas trop aller. Et je n'avais rien à voir avec ça. Moi, je n'avais pas l'âge. C'était temporaire, mais bon, je me suis dit, j'entre là, mais je ne vivrai pas là toute ma vie. J'ai une maison, j'ai une voiture.
Et du coup, vous êtes retourné chez vous ?
Oui.
La maison était vide ?
Un choc.
Un choc. Parce que des fois, on se demande comment c'est possible d'aider les personnes qui accumulent comme ça. Là, il y avait clairement une notion de danger. Hein. Je me souviens d'un affaissement de l'étage. Ça risquait de tomber.
Oui.
Vous n'aviez plus trop la possibilité de vous déplacer dans votre logement ?
Je ne suis pas idiote, mais pour moi, je ne voyais pas ça, comme disaient mes enfants, enfin ma fille et mon gendre, que ça pourrait s'affaisser et arriver à terre dans le salon ou dans le couloir. Non, pour moi, ce n'était pas à ce point-là.
C'était pas à ce point-là.
Non,
aujourd'hui, l'émission, elle s'appelle Un autre regard. Du coup, vous avez le droit d'avoir un autre regard sur ce qui vous arrive.
Enfin, pour moi, c'était pas à ce point-là, mais bon.
Et aujourd'hui, vous avez recommencé à conserver des choses qui comptaient pour vous ?
Ben oui, je suis comme mes sœurs. Elles disent que c'est mes sœurs qu'elles se font violence. Une, ma sœur aînée, donc, 70 ans hier, qu'elle a eu.
Bon anniversaire.
Ma sœur aînée, oui. Eh bien, non, hier, c'était Astrid. Ma fille qui a eu son anniversaire un lundi et ma sœur dimanche. Et elle a une maison qui est immense, la valeur, grandeur de 2 grandes maisons dans une maison. Et elle me dit, parce que c'est héréditaire beaucoup, je me fais violence parce que son mari jetait beaucoup. Ils sont mariés depuis très très longtemps, 47 ans. Et maintenant, après ils sont partis, ils ne jettent plus. Enfin, c'est pas que j'aide plus, mais ma sœur dit « je me fais violence ». Et j'ai bien aimé quand elle me dit ça, parce que je me dis « ah, elle aussi, ben on est toutes quatre pareilles ».
Ça vous parle, cette phrase de se faire violence pour jeter les choses ?
Oui, oui, oui. Moi, j'ai pas besoin d'inventer. Je sais ce qu'il y a à faire, de la volonté. Je peux. J'ai des membres qui fonctionnent, j'ai 2 jambes, 2 bras, et je peux, je le sais, je peux, et je ne fais pas toujours.
Non. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait des gens qui venaient vous aider des fois à...
Oui, mais elles ont l'ordre avec moi de ne pas... de pas jeter.
Ah, il y a des règles quand même.
C'est moi qui jette.
Ah, c'est vous qui êtes aux commandes.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui vienne vous aider, qui vous guide, mais c'est vous qui décidez.
Qui me guide, qui me regarde.
D'accord.
Oui, qui me guide peut-être, mais je veux pas qu'elle jette. Ça, c'est arrivé, mais en général, j'aime pas trop qu'on jette sans que je sois là.
Et qu'est-ce qui fait que vous voulez garder les choses chez vous ?
M'entourer de beaucoup de choses, pas manque affectif, qu'on m'avait dit.
On vous avait parlé de manque affectif et du coup, être protégé par les objets que vous aviez conservés.
Oui, ça m'a été dit autrefois.
Bah c'est intéressant d'entendre ça aujourd'hui parce que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent. On a tendance à parler du syndrome de Diogène en disant que les gens accumulent, mais sans raison particulière, qu'ils sont... ils sont juste en train d'entasser les choses sans savoir quoi faire avec. Et vous leur donnez vraiment une signification.
Bien, oui. Mais à ce moment-là, je me pose la question. Parce que comme c'est héréditaire, mes parents, je ne sais pas si c'était la même chose pour eux. Surtout maternelle, ma maman.
Votre maman conservait déjà les choses ?
Énormément.
Énormément. Vous avez souvenir de quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison de votre enfance ?
Les boîtes d'œufs.
Tout.
Tout. Les journaux ?
Les journaux. Mes parents étaient, et papa vit toujours, mais maman est décédée depuis 28 ans, et agriculteur, éleveur, et éleveur de chevaux, de trotteurs, de chevaux de course. Donc papa... Enfin, mes parents avaient abonné au Ouest de France tous les jours,
oui.
Le Haut-Anjou toutes les semaines, Courrier de la Mayenne.
Il y a les trois marques, on peut y aller. Le Télégramme dans le Finistère.
Le Paris Turf, mais oui, ils disaient toujours le Turf, la Kazakh.
Et tout ça arrivait chez vous ?
Chez mes parents, oui. Et des gros livres de cheval français, du trotteur du cheval français. Des gros livres... qui avait tous les semestres et qui empilait papa.
Papa, il empilait les...
Sur la cuisine avec les éléments. Mm-hmm. Il montait sur une chaise et il empilait bien rangé, impeccable, bien rangé. Là, c'était à droite, c'était le Haut-Anjou, le Courrier de la Mayenne, Ouest de France. Et à gauche, c'était les chevaux.
Ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que...
Et il tassait pour mettre jusqu'au plafond.
Ça touchait le plafond. Mais c'était rangé, il y avait quand même une notion de rangement.
Ah, c'était rangé, oui. Rangé, mais serré, 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 dur. Et rangé, mais pas jeté, pas de tri.
Pour ceux qui ont vu des documentaires vraiment sur le syndrome du Diogène, on voit ça, que les choses sont quand même sélectionnées. On voit des bouteilles de plastique dans un coin, des sacs poubelles dans un autre, des revues dans un autre. On sent quand même qu'il y a cette notion de rangement qui est important dans le logement.
Oui, mais... je me souviens, un jour, quelqu'un est venu de notre pays, de la Seine-Cranaise, et qui a dit... J'aurais jamais cru que tu pouvais être comme ça, Camille, en parlant de ranger, de garder tous les... Mmh. Il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de journaux de chevaux, peut-être, mais bon, il jetait beaucoup, sa femme était handicapée, lui faisait tout le nettoyage, tout le ménage, il rangeait énormément. Alors, il avait été ébahi, sidéré.
De voir tout ça.
Oui, et il a dit, j'aurais jamais cru.
Ouais, vider une maison, ça peut être compliqué. Hein. Quand il y a ce syndrome qui est présent dans la maison, c'est un peu compliqué de refaire le ménage, de vider tout. Et puis d'être en accord avec la personne quand même qui a entassé tout ça.
Ah bah oui, chez mes parents, c'était une ferme, donc c'était très grand. Et tout le bâtiment était très grand, les pièces étaient... ancienne, mais très, très grande.
Eh bien, merci pour toutes ces premières informations.
De rien.
On va pouvoir continuer ensemble à découvrir un petit peu votre quotidien. Et aussi, on va donner la parole à Virginie tout à l'heure, qui nous parlera des logements précaires. Je vous propose une petite pause avec le retour d'Anonyme Rime, qui nous a écrit un texte sur le logement. Et c'est à lui.
Un bon chez-soi, c'est comme un coucher de soleil. On y vient après une longue journée pour s'y mettre en veille. Une chaleur nous y accueille et cela nous fait un grand bien. Avec des chaussons ou non, on peut s'installer sur le canapé en ne faisant rien. C'est un endroit où tout est à votre image. Chaque chose est faite pour décorer, cela à tout âge. Quitte à entasser le matériel dans un coin, cela vous appartient, vous les avez choisis avec soin. Car c'est avant tout cela un bon logement, quelque chose que vous pouvez embellir aisément par l'achat de meubles ou bien de tableaux. Ils habilleront vos murs pour que ce soit beau. Vous êtes chez vous, seul ou accompagné, et si un jour il manque de la place pour le nouveau-né, vous pouvez déménager pour un lieu plus grand, pour qu'alors puissent y grandir tous vos enfants. Car c'est bien en fondant sa propre famille que l'importance d'un foyer se rapproche de l'idylle. Sans cela, il est vrai qu'un foyer est passager, et il vous incombe en tout temps de l'aménager.
Merci Anonyme Rime, merci beaucoup. Encore un texte plein d'éloquence. On sent que ça bosse dur. Il y a des répétitions derrière tout ça. Merci. J'en profite parce qu'il est parmi nous aujourd'hui. Comment ça se passe cette écriture? Comment ça se passe ces enregistrements pour vous?
Ah, j'y vais petit à petit.
Ouais.
Et bon, en ce qui concerne les enregistrements, bah, c'est un plaisir à chaque fois.
Bah, pour nous aussi, hein. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, on a pu entendre Marie-Annick. Merci beaucoup hein, pour ce témoignage. On va pouvoir, bien sûr, approfondir. Hein. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas.
Oui, ben, merci.
La parole est libre. Et aujourd'hui, on accueille aussi Virginie, qui... Je vais la laisser se présenter, parce qu'on se connaît aussi un petit peu au quotidien. Mais elle a quelques petites informations à nous donner sur comment ça se passe pour trouver un logement à Laval. Et peut-être certains exemples un peu plus spécifiques qui peuvent avoir des difficultés et qui sont dans nos services sociaux pour être aussi soutenus à l'occasion. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le logement à Laval? J'ai pas vraiment de sous, j'arrive dans ton bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille?
Avoir un logement sur Laval, ça devient de plus en plus compliqué quand même. On est passé sur des délais d'un an, et demi pour trouver un logement, à plus de 3 ans maintenant.
Et quand tu dis les délais, c'est des dossiers qui sont envoyés à qui?
C'est des dossiers, en fait, on fait quand des personnes ont des minima sociaux. Mmh. Ils font des demandes, un dossier à envoyer aux bailleurs sociaux. Donc il y en a 3 présents sur Laval. Et il faut que le dossier soit complet pour que la demande soit étudiée. Ça veut dire une pièce d'identité, ça veut dire des impôts à jour, ça veut dire des ressources. Il faut que tout ça soit réuni pour demander. Et après, il faut attendre. Il faut attendre une proposition de logement. Et effectivement, on est passé en 5-6 ans, on a doublé le délai d'attente.
La priorité, c'est bien de monter un dossier.
C'est ça.
Pour que ça soit en liste d'attente.
Exactement. Si on ne fait pas de demande, on ne fait pas de dossier, on n'aura pas de proposition pour avoir un logement social.
Et du coup, vous êtes. Que font les gens dans cette attente-là? Ils vont vivre chez d'autres personnes? Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour les gens qui cherchent, les gens qui attendent?
Les gens qui attendent, soit ils sont hébergés par la famille. Quand c'est possible, héberger chez des amis, quand c'est possible. Sinon, après, les gens patientent, on peut le dire comme ça, dans des structures, des hébergements d'urgence, des structures d'urgence, de l'hébergement, en fait. Mmh. Donc là, ce n'est pas forcément des endroits qu'ils ont imaginés, qu'ils ont choisis, qu'ils apprécient, mais y a pas trop de solutions, en fait. Donc sur Laval, effectivement, il y a plusieurs associations qui proposent des hébergements. Et ça peut aller de très précaire, hein, c'est-à-dire des hébergements sur une nuit, une semaine, à plusieurs mois pour attendre.
Ben merci, on sent que c'est pas toujours évident. Léni est autour de la table, il aurait souhaité nous parler aussi d'une belle expérience. Parce qu'en fait, toi Léni, tu vivais chez tes parents.
Oui, je vivais chez mes parents et j'ai trouvé un logement récemment.
Ouais.
J'ai eu de la chance de ne pas avoir attendu très longtemps. Je suis dans un logement social, sociaux.
Ouais, un logement social. Tu avais fait ton dossier il y a combien de temps à peu près?
Je l'ai fait en avril, mars de l'année dernière.
Ok.
Et j'ai eu mon logement en décembre de l'année dernière.
Parce que toi, par exemple, ta pièce d'identité, elle était faite. Ton avis d'imposition, c'était à jour. Et la demande, c'était peut-être aussi un logement pour un logement seul.
Oui, un logement seul. Et je voulais être proche de chez mes parents. Donc la demande, elle était... un peu plus précise, je voulais être proche de chez mes parents pour mon bien-être. Et sinon, j'ai pu faire un courrier du médecin pour appuyer ma demande aussi en faveur d'un logement pas loin de chez mes parents.
Donc c'est le document du médecin a pu peut-être accélérer le processus de choix du logement.
Oui, c'est ça. Oui, ça a accéléré, enfin je pense. Et après, j'ai pu avoir mon logement en décembre et ça fait 2-3 mois que j'y suis et ça se passe très bien.
Ça se passe très bien. Et ce matin, tu me disais pourtant que tu voudrais qu'on fasse prochainement une émission sur la solitude.
Oui.
Les bienfaits et les méfaits de la solitude.
C'est ça.
Et tu as vécu déjà plusieurs étapes dans ton logement. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, en fait, au début, j'appréhendais pas mal d'aller dans mon logement. J'avais peur. Je pensais aussi à la solitude, mine de rien, ça me rendait anxieux un peu. Puis je me suis rendu compte que ça s'est bien passé parce que moi, j'ai besoin d'être organisé. Et quand je m'organise, je déstresse facilement. Et donc, grâce à mes parents qui sont présents pour moi, je me suis organisé. Ils m'ont aidé pour l'administratif et ça a fait diminuer mon anxiété pour mon logement. Et puis la solitude, ça m'aide en fait par rapport à une époque où c'était dur. Maintenant, ça me permet de me ressourcer, d'être seul, de se reconnecter avec moi-même. Et comme j'aime bien être avec moi-même, ça m'aide.
Voilà. Ah, c'est une chance.
Oui.
Et vous, Marianic, la solitude, ça vous parle ? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ? Vous vivez seul ? Vous vivez avec des personnes ? Comment ça se passe chez vous ?
Chez moi, je vis seul.
Et quand vous entendez parler de solitude, du coup ?
La solitude, c'est quelque chose parfois de pesant. Mais, et puis, mon souci, ma maison, n'est pas facile d'accès pour inviter mes amis. Mais malgré tout, j'ai 2 ou 3 amis qui viennent dans mon grand salon boire un café.
Et il y a des gens qui ont compris.
Et discuter.
Et ils sont d'accord de venir chez vous ? Ils ne vous jugent pas quand ils passent dans votre maison ?
Peut-être, mais je ne crois pas. Elles comprennent.
Elles comprennent.
Enfin, apparemment.
C'est
j'ai
sûr.
L'air de voir qu'elles comprennent qu'elles... C'est toujours les mêmes.
C'est vos amies.
Elles ne viennent pas souvent, mais elles sont courbeveilles ou de athées. Ou de cran, mais...
Ah, on est dans le sud Mayenne, là.
Oui.
C'est bien, parce que c'est pas souvent qu'on est dans le sud Mayenne, c'est pour un autre regard.
Et elles viennent, elles sont contentes de me voir, et on discute ensemble, et on parle que c'est pas très attrayant, toutes les pièces.
Elles peuvent pas rentrer dans toutes les pièces.
Non.
Il y a des pièces qui sont trop chargées.
Oui.
Mais vous faites avec ça. Et vous avez gardé des amis.
Bien, je fais des activités avec elles aussi.
Vous arrivez à sortir. Vous n'êtes pas bloqué chez vous.
Non.
Qu'est-ce que vous faites ?
C'est vrai que autrefois, j'avais un souci, c'est de partir.
Sortir de chez vous ?
Sortir de chez moi, oui. Et les ateliers d'échange m'ont ouvert la porte, ça m'a permis de sortir de chez moi. Je dis comme beaucoup ont dit, qui sont là-bas, disent, ça les fait sortir de chez elles et on voit du monde. J'aime bien être en contact de personnes. J'aime bien les... Je fais du théâtre, du cinéma, j'aime bien les groupes... J'aime bien quand on forme un bon groupe et qu'on s'entend bien. Je fais du théâtre depuis 2011. En parlant de théâtre, j'ai...
Vous voulez faire un peu de pub peut-être ce matin pour en profiter ?
Montrer mes preuves. Il y a 6, 7, 8, 9, 10... Enfin, il y a... Les premières années, j'ai montré mes preuves.
Vous êtes monté sur scène ?
Ah bah oui,
oh bah
ah
oui.
Bah oui, ah bah oui, depuis le début, enfin depuis la 2012.
Est-ce que vous y a un projet actuellement qui vous tient à cœur au théâtre ? Est-ce que vous êtes en train de travailler quelque chose ? Une pièce, une représentation ?
En ce moment, là dernièrement, on a fait sur le voyage à l'aéroport.
Ok.
Et là, on est en train de choisir un thème pour cet hiver, pour le mois de décembre.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit secret de ce qui nous attend, du coup ? Cet hiver.
Le thème,
par exemple, si vous êtes d'accord.
Oui, mais il n'est pas encore décidé.
C'est pas sûr encore.
Non.
C'est en projet.
C'est en projet pour l'instant. Parce que le prof de théâtre a dû s'absenter 2 semaines. Et pour l'instant, on est encore dans le doute. C'est pas... on avait un projet autour de l'amour. C'est quoi l'amour? On a fait aussi.
Ah, c'est un sujet qu'on a étudié, qu'on a eu à l'autre regard il n'y a pas longtemps pour la Saint-Valentin. Donc un sujet d'actualité. C'est toujours d'actualité, l'amour.
Oui, oui. Et il y a beaucoup de choses autour de l'amour. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à... On avait fait 1h30 de scène.
Eh bien, merci hein, de nous donner tout ce petit
une heure
quotidien.
1h30 en 4 étapes.
Ah oui, il y avait 4 actes.
Oui.
Eh bien, merci pour toutes ces petites informations. On va continuer avec une petite pause musicale. Aujourd'hui, on va découvrir un artiste qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit du chanteur Jacques. Et on a choisi la chanson « Partout ».
Entendre les croyances, entrer dans la danse, reprendre conscience, comprendre sa chance, prendre de l'avance, vendre de l'argent, vivre largement, vivre par la mort, j'ouvre par les mots, l'œuvre d'un gênant, livrer de mes lèvres, la vie du jeune homme, la vie du génie, la vente des genoux, la vente des mignons, la vente des hommes, la vie des
Hyperactif, je vous offre toutes mes actions. Il paraît que tu vois chuter le cours de la vertu. Ça fluctue en faveur d'une faction d'avertis. Ces messieurs me disent que la recette est parfaite. Pense même que la faute est faite, expat. Au paradis, mes potes, expat, munis de longues fourchettes, nourrissent la bouchon d'en face. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. J'expérimente, mais je reste pur. J'ai des visions quand je respire. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Dans la radio de mon esprit, j'entends les astres qui s'expriment. Prends ma main, je t'emmène dans le jardin où les chutes sont sans filet, mais les buts sans gardien. Arrivé au sommet, ton sourire va servir. En cas de perte, je t'en garde un. Mes textes sont concepts, mais le psy est confiant, décidément conscient. Et le titre qui me convient, ce que tu vois n'est pas vraiment moi. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. J'expérimente, mais je reste pur. J'ai des visions quand je respire. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Dans la radio de mon esprit, j'entends les astres qui s'expriment. Prendre la nuance, perdre sa revanche, prendre ses distances, rendre ses croyances, descendre de l'immense branche qui est en train de craquer, alors qu'on y est tous perchés, avant que la vie vienne nous chercher. Ce qui est entré finira par ressortir, ce qui est venu ne va jamais revenir, mais ce qui est parfait depuis toujours perdure. Et c'est comme ça que c'était prévu, c'est tout. L'arbitre est le seul à n'avoir rien vu du tout. Le jeu a lieu à tous les niveaux. On se dit que ça va sauter, mais ça changera pas de sitôt. Les nouveaux savent tout ça. Partout. Porté. Reste pur. Respire. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Je fais comme Gain, j'ouvre ta porte pendant que les voisins sont partis.
Très beau texte, très bon choix. Il faudrait que je retourne découvrir cet artiste parce que je crois que je n'ai pas encore fait le tour. Ça a l'air vraiment sympathique. On va essayer de continuer à découvrir Jacques qui nous surprend par ses textes et avec une rythmique vraiment intéressante. Donc aujourd'hui, l'émission Un autre regard qui s'attache à la vie, le logement et puis Le rétablissement, évidemment. Donc, une émission qui parle aussi de déstigmatiser vraiment certains phénomènes. Aujourd'hui, on parle du syndrome de Diogène. On a Marie-Yannick dans nos studios qui nous explique qu'elle n'a pas vraiment le choix, que des fois, c'est pas évident, mais qu'elle en a besoin et que ça la rassure de garder ses objets. Donc, moi, c'est vrai que dans mon parcours de travailleur social, j'ai vu aussi pas mal de gens conserver des choses. Ça allait jusqu'aux mégots de cigarettes, ça allait jusqu'à les papiers, voilà, les emballages, les journaux, les choses comme ça. Donc, c'est des gens qui entassent, mais j'ai bien aimé que vous puissiez nous dire que ça vous réconfortait aussi, que ça faisait du bien pour vous d'avoir des choses autour de vous, parce que ça fait tomber un petit peu le regard qu'on peut avoir sur cette difficulté. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en parler encore un petit peu ? Comment vous sélectionnez vos objets, comment vous les rangez, et est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un trop-plein et il faut vraiment passer à l'acte et sortir des choses ?
Si vraiment je vois qu'il y a un trop-plein, si je m'en rends compte, je m'en rends compte, mais si j'ai envie de m'en rendre compte, eh bien j'essaie, je me dis, il faut que je booste-toi, il faut que je me booste et je... C'est conclu, c'est de la volonté, je le sais depuis toute ma vie. C'est de la volonté pour tout.
On voit tous les efforts que vous pouvez faire dans la gestion de ce syndrome.
Jeter.
Vous êtes contente quand vous avez jeté ?
Oui.
Alors expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui fait que ça développe une émotion de joie quand vous arrivez à jeter certaines choses ?
Bien, les trois quarts de choses que j'ai dans ma maison, il y a trois quarts de choses à jeter. Et quand je jette, même que la femme me regarde et je jette, si elle se trouve là, eh bien, et puis elle me dit, ah, ben c'est bien aujourd'hui. Mais des fois, elle me dit, oh, il n'y a pas beaucoup de... Je mets dans un grand sac et elle me dit, des fois, il y a où mettre, hein, vous pouvez en mettre plus.
Vous prenez un sac, c'est une méthode que vous avez, que vous pouvez donner à nos auditeurs. Vous prenez un sac poubelle, par exemple, et vous mettez des choses dedans.
Oui, c'est pas un sac poubelle,
c'est un beau sac
que je garde.
Qui sert à amener les choses jusqu'à la poubelle dehors.
Oui.
J'ai accompagné un monsieur, on a parlé avec, on a évoqué la notion, la poubelle jaune, je sais pas si ça vous parle, à Cron,
oui,
vous avez
oui,
des poubelles jaunes aussi.
On a poubelle jaune.
Et du coup, on a parlé avec ce monsieur-là aussi de, du tri sélectif et d'avoir une action un petit peu sur la planète, en fait, en faisant du tri et être éco-citoyen. Et je sais que c'est quelque chose qui avait pu l'aider à l'époque. Et donc, c'est une méthode que je donne aussi à la radio aujourd'hui. Et une autre méthode qui avait fonctionné, c'était, on avait parlé de la notion de passeur de culture. Vous me parlez de vos livres sur la Mayenne et sur les chevaux et autres. Bah, ce monsieur-là, il était d'accord de se débarrasser de certains objets pour les déposer à Emmaüs, par exemple, ou dans des bibliothèques ouvertes sur la ville. Voilà, à La Périne, par exemple, il y a une bibliothèque ouverte au jardin de La Périne où vous pouvez lire des livres. Et ça a été un moyen pour lui de vider progressivement son appartement. Alors, je ne vous dis pas qu'on a eu un résultat exceptionnel, mais en tout cas, ça a donné sens à se séparer de certains objets dans sa maison. Voilà, il n'est pas que question d'hygiène, il n'est pas que question de rangement, il est aussi question de transmettre à d'autres. Et ça lui avait bien plu et aujourd'hui, il a gardé cette méthode-là. Il y a souvent un sac chez lui pour Emmaüs et il y a souvent le secours populaire aussi. Et il va plus facilement au conteneur jaune qui est juste devant chez lui. Donc, je ne sais pas si c'est des outils qui vous parle, parce que vous avez déjà transmis des choses à des gens ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Mais vous arrivez des fois à vous séparer de certaines choses quand même.
Oui. Je prends sur moi.
Vous prenez sur vous.
J'ai l'impression que je prends sur moi, mais je suis contente d'avoir jeté. Et je me dis, tu devrais en faire le triple, le double, le triple.
Il ne faut pas vous en vouloir, j'ai l'impression que vous en faites déjà beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus à nous de faire l'effort de comprendre ce qui vous arrive. Parce que cette société, elle est souvent jugeante. Et du coup, venir témoigner ce matin, ça peut être intéressant de comprendre un petit peu le phénomène Diogène. Virginie, vous avez accompagné Marie-Yannick ce matin.
Oui.
Donc, elle m'a dit, il faut qu'on s'organise. Je vais essayer de prendre un peu plus de temps. Il y a peut-être deux, trois choses à voir avant de réussir à partir. Parce que vous avez pu dire que ce n'était pas toujours facile de quitter votre maison. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Yannick, pour que Virginie nous raconte comment ça s'est passé ce matin ?
Ah oui, il y a quelques rituels aussi.
Ah, bah parlez-nous de ça alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi vos petits rituels ?
Petits rituels, c'est la clé plusieurs fois et fermer la porte plusieurs fois.
On parle de toc ?
Tic et toc.
Tic et toc.
Tic et toc.
Pourquoi pas, les rangers du risque.
Pas de tic et de toc.
C'est ça que vous appelez obsessionnel compulsif.
Trouble obsessionnel compulsif. Compulsif. C'est un peu un gros mot, ça, quand même. Mais vous êtes obligé de le faire.
Bah, les TOC, c'est ça, les troubles obsessionnels compulsifs. Mais moi, je dis, c'est pas la peine d'aller voir un psychiatre, de perdre son temps avec un psychiatre. Ce serait plutôt pour moi un psychanalyste comportementaliste.
Ça existe. Vous arrivez à faire la nuance entre psychiatre et psych...
Je sais que ça existe.
Oui.
À ma connaissance, non. Je ne connais pas de... Dans le coin, à la vade, il doit y en avoir, j'imagine. Mais un psychiatre, ça donne des médicaments.
Oui.
Et moi, j'ai pas envie de lui parler. Parce que je me sens jugée. Et j'aime pas. J'aime pas...
En tout cas, vous cherchez un médecin qui soit plus en face avec, avec vos difficultés et qui soit plus compréhensif aujourd'hui.
Oui.
Parce que les psychiatres ont quand même une place importante sur le territoire. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des psychiatres. Et le fait de trouver un traitement qui soit adapté aux difficultés peut quand même être une source de solution et faciliter la vie de beaucoup de personnes.
Oui, mais moi, je suis consciente qu'il n'y a aucun remède pour ranger. Il n'y a pas des remèdes qui... On me disait des fois, « Oh, bah, faut prendre des médicaments, ça va t'aider à acheter, à ranger, et... enfin, ranger et jeter, enlever tout ce qu'il y a de surplus. » Mais il n'y a pas de médicaments, donc c'est que, comme beaucoup de choses, c'est que de la volonté. C'est comme des fois de se laisser aller, de ne pas sortir de chez soi. Bien, faut y aller, dardard, j'y pense, mais des fois, je pense, mais j'agis pas.
Je pense, donc j'agis.
Non. En général, je pense et je dois agir. Mais quand je pense et que j'ai agi, je suis satisfaite, contente.
Qu'est-ce que tu en penses, Léni ? Parce que là, on touche un peu la philosophie, encore une fois, donc je te regarde. Je pense, donc j'essaye d'agir. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Bah, je sais pas trop. Normalement, la vraie phrase, c'est de Descartes, je pense donc je suis. Mais je pense donc j'agis, c'est pas forcément vrai, parce que on peut pas forcément mettre en pratique toutes nos pensées pour certaines raisons qui nous empêchent de le faire, ou des raisons sociales ou morales. On peut pas forcément agir ce qu'on pense.
Donner du sens à l'action, quoi, en fait.
Ouais, on peut pas... on peut donner du sens à l'action, mais que ça soit induit comme ça, qu'on va dire que la pensée va forcément vers l'action, à part le pragmatisme, je vois pas trop comment ça peut aller comme ça.
Tu comprends bien. Et toi, Maxence, est-ce que ça t'arrive ? Comment tu fais pour te mettre en mouvement dans ton logement ? Comment tu fais pour te mobiliser, pour réussir à ranger, à nettoyer, à faire du tri ?
Comment c'est parfois difficile, mais je me contrains à le faire pour que ce soit plus propre.
Il y a une notion de contrainte qu'on a retrouvée aussi chez Marie-Yannick et une notion de plaisir une fois que c'est fait. Est-ce que c'est pareil pour toi ?
Oui, tout à fait.
Donc du coup, ça peut faire expérience et petit à petit, on se dit si je me mets en mouvement, je me fais du bien, mais c'est dur de se mettre en mouvement.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Comment on peut faire du coup ? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi ?
Moi, j'essaie de voir le plus de monde possible pour me vider la tête avoir des occupations le plus possible également.
Ça finit par te mettre en mouvement et puis ça te permet de gérer un peu mieux ton logement, du coup.
Tout à fait.
Et le fait d'inviter chez soi, vous parliez d'inviter des amis au café, est-ce que ça ne met pas une petite pression ? Est-ce qu'on n'a pas envie de nettoyer un peu ? Est-ce qu'on n'a pas envie de préparer quelque chose, de laver une tasse ou des choses comme ça ?
Ah, si.
Ah,
ah oui.
Là, on touche quelque chose.
Ah oui, oui, oui. J'en ai peu, mais j'en ai des belles, mais elles ne sortent jamais que si un tel vient, une telle personne vient.
Vous avez des tasses qui sont vraiment pour vos invités ?
Oui.
Et celles-ci, vous arrivez à les laver, les ranger, les remettre propres ?
Oui, parce que je ne vais pas les laisser sur la table, parce que j'aurais peur de les casser.
Ah, elles ont de
et
la valeur.
Et puis, il faut les ranger, mais je les lave et je les range. Je ne les laisse pas, parce que je les range. Je peux prendre, s'il y a une amie qui vient, et si elle me voit laver la tasse, avant de... Elle va dire, oh ben, ma tasse a été sale. Donc, non. Mmh. Je la mets dans les quelques éléments que j'ai.
Ben, merci beaucoup. Virginie, vous avez accompagné Marianic pendant pas mal d'années. Oui. Ce matin, vous êtes allée la chercher. Racontez-nous un petit peu votre regard sur le quotidien de Marianic.
Alors, on s'est connus, Marianic, en 2018, je dirais.
Oui.
Et moi, j'ai appris beaucoup, en fait, des difficultés que Marianic pouvait avoir dans son logement, sa façon de vivre, s'organiser. J'ai beaucoup appris et j'ai surtout voulu comprendre son fonctionnement. Et je me suis rendu compte que quand quelque chose rentre dans son logement, c'est très compliqué de le faire sortir. Et pour autant, chaque chose, chaque objet, aussi petit qu'il soit, a une signification, fait penser à un souvenir, à une personne, à un moment passé en fait.
Il y a une histoire derrière chaque objet ?
C'est vrai.
C'est vrai.
Et donc... effectivement, si on ne prend pas le temps que vous nous racontiez cette histoire, on ne peut pas le faire sortir. On ne peut pas le faire sortir de votre logement.
Il y a des étapes.
Il y a des étapes. Chaque papier correspond à un événement que vous avez pu avoir avec telle personne. Et donc, s'il est là, ça vous fait repenser à cet événement, à cette personne.
Oui, c'est la fête, mais... J'ai vu lorsque c'était de la pub, par exemple, je suis un peu assez consommatrice de café. Eh bien, quand j'avais des pubs Super U de la ville de Cran, Aldi et d'autres pubs, Leclerc, je regardais toujours s'il y avait des cafetières.
Les cafetières. Le café. C'est vrai et que ça coûte cher, le café.
Et donc ce matin, je vous ai rappelé hier soir pour savoir si vous étiez toujours d'accord de venir. Je vous ai appelé ce matin à 8h.
5, 8h05.
8h05, il faut être précis dans cette émission.
8h05, je vous ai rappelé à 8h30 quand je partais de chez moi.
Heureusement que vous m'avez rappelé une seconde fois.
Et quand je suis arrivée chez vous, je savais que vous n'étiez pas prête. Mais je suis venue avec du café déjà, ça faisait longtemps
oui.
que j'étais
J'ai beaucoup venue. Apprécié. J'ai remercié Virginie.
Et voilà, combien de temps il me reste ? Combien de temps il nous reste pour se préparer ? Donc je vous dis toujours de se presser, mais la mise en mouvement, comme vous l'avez expliqué, peut parfois être compliquée. Vous avez besoin de vérifier, de repasser à certains endroits.
Sortir de chez vous, ça peut prendre du temps, du coup, Marianic ?
Des fois, oui, sortir de chez moi, la porte et plusieurs fois, la poignée de la porte, oui.
Oui, vous faites le geste de tourner la clé, de vérifier la poignée.
Oui.
Donc on voit bien que c'est des choses qui sont importantes pour vous.
Plusieurs fois, et j'en suis consciente.
Oui, on en rigole, parfois.
Ça peut être, l'humour, ça peut être une façon aussi d'avancer avec vous.
J'ai une sœur qui me prend pour un fardeau, parce que je ne conduis plus, j'ai mon permis de conduire, j'ai eu 4 voitures au total dans ma vie, mais je ne conduis plus depuis les premières années que je suis à Cran, enfin les premières années que j'étais à Cran, je conduisais, et je trouvais ça tellement petit par rapport à Laval, et j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher, donc je voulais faire à pied. Et de fil en aiguille, j'ai commencé doucement à pratiquement plus conduire. Et puis j'ai perdu ma maman, donc je n'allais plus chez mes parents comme avant. C'était plus chez mes parents. Il y avait ma sœur et mon beau-frère qui s'étaient installés. Donc je voulais pas, j'allais pas aussi souvent. Enfin, oui, je voulais dire que... J'ai perdu le fil.
On a le droit de le perdre, c'est pas grave.
C'est par rapport à la voiture. Ah oui, ma sœur.
Eh ben oui, il
me
soeur
dit que je
ne
suis
voiture.
Pas autonome. Je suis un fardeau parce que je ne suis plus autonome. C'est
un peu dur, ça.
C'est un fait, c'est vrai.
Ah, c'est
mais
vrai.
C'est assez violent. Quand on me parle de tuer un fardeau, c'est violent. Je ne vais pas te chercher parce que ça me rallonge. Ça me fait des kilomètres de perdu. C'est...
Il y a des gens qui sont un peu épuisés parfois autour de vous.
Ben, et vous voyez, c'est ma sœur qui a 12 ans moins que moi. C'est ma famille, mais c'est pas toujours ça.
Ben, c'est pas toujours facile, hein, dans toutes les familles.
Et... quand elle vient chez moi et qu'elle me voit fermer ou qu'elle me prend, je dois être prête, et qu'elle me voit fermer ma porte, elle me dit « Ah, qu'est-ce que je me régalerais, qu'est-ce que je serais contente si ta poignée te venait dans les mains, que t'es à la porte pour faire venir un serrurier. »
Voilà. C'est pas toujours facile pour l'environnement de comprendre vos difficultés.
Non, ma famille, non.
Même ceux qui vous accompagnent, j'ai souvenir des aides à domicile qui venaient chez vous, qui avaient pour mission de ranger.
Oui.
Donc c'était vraiment leur fiche de poste de venir faire du rangement chez vous pour vous aider.
Oui.
Et pour vous, c'est très compliqué de voir des gens faire du rangement sans votre accord.
Oui.
Donc c'est des fois, il y a des missions pour les professionnels qui sont très difficiles à mettre en place. Chez vous, par exemple, enfin, les aides à domicile, j'imagine que le métier devait être compliqué d'intervenir chez vous.
Oui.
Elles faisaient de leur maximum, mais il faut comprendre votre fonctionnement.
Oui, c'est un fait.
Il faut être tolérant, en fin de compte.
Elles voulaient jeter, et il faut que ça passe par moi. Je ne peux pas les voir jeter sans
valider.
Je ne vais pas m'amuser à les regarder jeter. C'est pas elles qui font, c'est moi. Je suis têtue.
Mais non, vous avez le droit de choisir comment on fonctionne chez vous. Donc les aides à domicile ont appris à faire...
C'est vrai que si c'était les aides à domicile qui jetaient, ce serait... Je fais le geste, mais ce serait vite torché.
Ça serait vite torché, bah écoutez, on va garder ça. Je vous propose un petit moment de philosophie avec Philo Mantalo, qui nous parle de son regard sur le logement.
Philo Mantalo, les chroniques de Léni.
Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça.
Salutations à tous les auditeurs de l'autre radio. Le saviez-vous, le syndrome de Diogène porte son nom en lien avec le philosophe grec Diogène de Sinope. Mais au contraire du syndrome, Diogène n'accumulait pas d'objets en grande quantité. Il vivait dans une simplicité ascétique et minimaliste. Le logement, n'est-ce pas là une extension de nous-mêmes? Un lieu de repère intime où il y a de disposer des objets qui reflètent notre personnalité. C'est nos affaires personnelles. Voyons ce que peut apporter le logement à quelqu'un. Vivre seul peut apporter une sorte de sensation de liberté, d'autonomie et de responsabilité, ce qui n'est pas négligeable. Vivre à plusieurs peut apporter du soutien. Chacun peut s'entraider. Vivre à plusieurs, c'est aussi se respecter les uns et les autres, dans un environnement partagé. Vivre en famille peut apporter une sorte de relation fusionnelle avec les membres de sa famille, les parents, frères ou sœurs. Et en même temps, c'est notre premier logement auquel on y passe une majeure partie de notre début de vie. Donc cela marque un repère significatif sur notre façon de vivre. J'ai eu un logement récemment, et pour ma part, j'appréhendais un peu de m'y sentir mal. La solitude me faisait un peu peur, et ma plus grande surprise, c'est que je me suis senti vite à l'aise. Il y avait plus de peur que de mal finalement. Et j'essaie de prendre soin de mon logement, en passant par le ménage bien évidemment. Après tout, comme dit précédemment, ce logement fait partie de moi en quelque sorte. Il reflète ma manière de vivre, plus ou moins explicite. Qu'on soit seul dans son logement, ou à plusieurs, cela reste un endroit important pour nous. Merci à tous les auditeurs de l'autre radio de m'avoir écouté. À la prochaine pour une nouvelle chronique.
Philo Mantalo, les chroniques de Léni.
Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça.
Merci Philo Mantalo, encore une belle chronique sur la philosophie et son logement. On attend les prochaines. On a le projet de parler des animaux, je crois, prochainement. On a aussi le projet de parler de la solitude. Hein. On a évoqué ces phénomènes et on en trouvera bien d'autres. On arrive au terme de l'émission, une émission qui nous a parlé de la vie, du logement, du rétablissement. On a pu entendre le témoignage de Marie-Annick qui est touchée par le syndrome de Diogène, qui nous a expliqué en quoi c'était important pour elle de conserver des objets, d'être actrice de la séparation. On a pu noter tous les efforts qu'elle peut faire au quotidien pour aller mieux et répondre à la commande sociale. En tout cas, merci d'être venue témoigner ce matin. On va passer la parole à notre chroniqueur Quentin, qui nous fait un petit résumé de la matinée. Voilà, Quentin, c'est à toi. On te confie le micro, on te confie les ondes. À toi, Quentin.
Ce n'est pas toujours facile de trouver un logement, mais quand on est bien entouré, on finit par trouver un foyer. Le syndrome de Diogène est quelque chose dont on pourrait se passer. C'est pas facile à vivre quand on a l'habitude de tout collectionner. Il faut savoir faire abstraction des objets. C'est ainsi. Mon travail ici est terminé.
Merci Quentin. On va faire un petit tour de table pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que Léni, tu voudrais nous dire quelque chose sur ce qu'on a entendu ce matin ?
Bah ouais, c'était très intéressant de savoir le vécu de chacun par rapport à son logement. C'est important parce que le logement, c'est une partie de nous-mêmes. C'est quelque chose auquel on y accorde une importance capitale quand même. Voilà, je voulais dire ça.
Bah t'as raison, merci beaucoup. Et Maxence, un petit mot ?
Bah, moi j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça très intéressant également. Le vécu de Marie-Annick, c'est quelque chose effectivement. Voilà.
Une histoire très touchante. Marie-Annick, merci encore pour ce matin. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose à nos auditeurs ? Peut-être quelqu'un qui a commencé à accumuler chez lui, peut-être quelqu'un qui vit les mêmes choses que vous, ou un frère, une sœur qui serait en train de voir quelqu'un de sa famille commencer à accumuler des choses comme ça chez elle. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit conseil avant de partir ou nous dire quelque chose là-dessus ?
Eh bien, quelqu'un dans la famille ou une amie qui garde tout comme moi.
Ben, en fin de compte, il faut savoir qu'on a écouté des millions d'auditeurs, je crois, d'après les derniers chiffres, écoutent l'émission. Et il y a certainement des personnes pour qui votre témoignage a résonné. Et du coup, j'aimerais que vous leur disiez quelque chose. Quelqu'un qui, par exemple, comme vous, commence à accumuler à la maison et qui se demande ce qui lui arrive, pourquoi il a du mal à se séparer. Est-ce que vous auriez envie de parler à la petite Marie-Annick qui est en vous ?
Eh bien, il faut de la tolérance, il faut de la volonté. Il faut essayer de pouvoir jeter au fur et à mesure, ne pas entasser, ne pas faire, comme dit Quentin,
une accumulation.
Une accumulation de... Eh bien, il faut beaucoup de volonté.
Merci pour votre témoignage. Virginie, peut-être un petit mot pour conclure ?
Pour conclure, moi je dirais qu'il faut également de la patience. Beaucoup de patience, du temps pour pouvoir se connaître le fonctionnement de l'autre et effectivement être tolérant.
Beaucoup de messages de tolérance, voilà, il faut s'écouter, il faut se comprendre, on n'est pas là pour se juger, on fait tomber les barrières. C'était Un autre regard sur le handicap psychique avec le collectif Santé Mentale 53. Merci à tous.
Un autre regard ?
Une émission proposée par le collectif Santé Mentale 53.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
Avec un autre regard.